RMC. Manger, manger sain, manger frais, manger...
Manger les pommes.
Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé.
L'ordonnance de Christian Requia.
Alors, on va parler des bienfaits du thé pour notre santé, parce que on a évoqué, c'était la semaine dernière, le café, hein, Christian, je crois bien, les bienfaits du café. Là, le thé, vous êtes très nombreux à nous avoir justement questionné là-dessus. Christian, est-ce qu'on peut considérer que le café et le thé sont dans la même catégorie ou pas ?
Oui, nous pouvons considérer que c'est la même catégorie avec autant de complexité. Nous avons vu que le café était très complexe car il y avait à la fois la plante et cette plante allait bénéficier d'un traitement, je dirais, artisanal. Et ensuite, il y a la mouture parce qu'on va moudre le café. Puis ensuite, il y a les machines. Puis ensuite, il y a la pression sur les machines, les températures. Tout ça faisait des cafés avec des goûts différents, avec des flaveurs différentes, avec une réaction physiologique sur l'humain différent, donc c'était très complexe. Le thé, c'est tout aussi complexe de par sa composition, parce qu'il y a des plantes qui font des thés, et la théine, en revanche, c'est le point commun entre le thé et le café, puisque ça apporte les mêmes effets.
Caféine, théine, même
c'est
combat.
Même combat, globalement, c'est un stimulant du neurone, c'est un stimulant des fonctions végétatives, et c'est très bien. On peut se séparer de la théine, et on peut garder le phénol du thé, et c'est en cela, aujourd'hui, que l'ordonnance est réalisée. C'est pour ça que l'ordonnance est réalisée, car il y a dans ces thés des phénols qui sont remarquables pour la santé. Nous avons le peuple japonais, qui est un peuple qui, je dirais, mange du thé plus que le bois. C'est-à-dire que le thé au Japon est une institution.
Voilà, qui accompagne toute la journée les Japonais.
Et qui accompagne effectivement la vie des Japonais,
des jeunes
même, quelle que soit la culture et quel que soit le niveau social. Et là, nous constatons finalement qu'il y a une façon de se séparer de la théine en lavant le thé une première fois pour faire partir la théine qui est soluble, et ensuite on laisse infuser la plante pour donner, je dirais, la capacité de la plante de diffuser. Et j'aurais aimé que notre excellent Patrick Mulan soit présent aujourd'hui, en ce moment, pour préciser que finalement la plante apporte des phénols, et plus vous laissez infuser cette plante, plus le thé sera amer, et plus le thé est amer, plus il y aura de l'épicatéchine qui sera favorable sur le plan vasculaire, qui va favoriser la production de prostacycline, qui est un vernis qui aide à la glissade vasculaire et empêche l'athérome, l'épicatéchine qui va empêcher, les dégénérescences cellulaires au niveau du côlon et donc certains cancers du côlon. Donc finalement, c'est un antioxydant puissant. Cela étant dit, il ne s'agit pas maintenant d'entendre cette émission et de se dire nous allons manger du thé matin, midi et soir. Non, il faut rester raisonnable.
Quels sont les risques à dose élevée?
Les risques à dose élevée, c'est comme on ne sait pas préparer un thé à la japonaise, c'est de prendre beaucoup de théine, donc l'équivalent de beaucoup de caféine. Ça, c'est le premier risque.
D'être excité,
mais
c'est
je dirais que si vous lavez votre thé dans un premier temps et qu'ensuite vous le laissez infuser à la japonaise, ben ça sera très très bien. Ensuite, c'est choisir un thé de qualité bio, parce qu'il ne faudrait pas prendre des produits chimiques sous prétexte qu'il y a des industriels fallacieux qui font des plantes à grande production avec des produits chimiques.
Ce que vous dites.
Ça veut dire que
vaut mieux choisir un thé bio ou pas?
Réellement là, oui. Oui, parce qu'avec, si vous voulez, une grande marque, je ne citerai aucune aujourd'hui, bien sûr, mais là, ça a du sens, parce que finalement, quand le thé n'est pas bio, on se prend les phytosanitaires d'emblée. Cela dit, le phytosanitaire ne m'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, globalement, la plante a digéré le phytosanitaire largement avant la cueillette. Ce qui m'inquiète, ce sont les produits chimiques qui transportent le produit et qui laissent au produit, c'est des produits qui l'on met sur la plante, que l'on met sur les fruits, que l'on met sur les légumes pour le transport. Et ça, ce sont des produits qui ne se désagrègent pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il faut faire attention à la production, je dirais, et à la qualité bio du produit.
Après, il existe une multitude de thés.
Je serais pour le thé vert.
C'est la question que j'allais vous poser.
Je serais pour le thé vert, un thé, encore une fois, qui se lave dans un premier temps.
Un breakfast, Ceylan, tous ces trucs-là, ça a du sens ou pas?
C'est nettement moins. C'est une question de goût, hein. Vous savez, François, j'ai toujours la tendance à être, je dirais, tranché dans ma façon d'être. Et là, je dirais que il faut. C'est une question de goût. Si vous prenez du thé noir, eh bien, écoutez, de temps en temps, offrez-vous un thé vert pour votre santé. Le thé noir n'a aucun intérêt santé. Si vous avez du thé blanc et que vous avez une fortune et que vous êtes accablé d'une grande fortune, eh bien, écoutez, très bien, prenez du thé blanc. C'est plutôt pour Madame Trump et Monsieur Trump. Mais concrètement, je dirais que ça n'a aussi pas trop d'intérêt. Donc le thé vert a vraiment, ça a du sens. Cela dit,
le thé santé, c'est le thé vert.
Oui, oui. Aujourd'hui, on peut dire sur le plan international.
Donc plutôt thé vert bio.
Thé vert bio infusé, lavé dans un premier temps et vous jetez la première eau. Et puis ensuite, concrètement, eh bien, vous laissez infuser. Et les Japonais disent, les thés du soir sont les thés qui ont utilisé les mêmes plantes que le matin. Donc on a des thés où quasiment c'est la racine qui va se diluer dans l'eau le soir à 17h, voyez. Donc, et là évidemment c'est un thé qui ne vous réveille pas, c'est un thé qui donne de l'arôme, je dirais, à votre eau que vous buvez.
Christian, on va revenir sur les thés, mais j'ai juste une petite question sur les infusions. C'est carrément autre chose.
Ah oui, c'est franchement autre chose.
Mais est-ce que ça a un intérêt, on va dire, pour la santé, de se boire une petite verveine, un petit thé citron, des choses comme ça?
J'adore, quand je suis en famille, de faire un thé pendant le repas. Je fais cette même technique et le thé, moi je n'aime pas l'alcool, hein, je ne bois strictement rien parce que voilà, j'aime pas et puis c'est comme ça. Cela dit, boire un thé fin donne autant de plaisir pendant un repas qu'une boisson alcoolisée. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut donner un parfum. J'ai souvenir de ce repas qu'on m'a offert chez Michel Troisgros il y a une vingtaine d'années, où il y avait un saumon qui avait été trempé dans du thé vert toute une nuit. Mais c'était
donc mariné au thé.
Mariné au thé, c'est tout simplement sublime. Mais c'est très facile à faire, si vous voulez. Il faut un thé très très phénolé, c'est-à-dire que vous laissez longtemps infusé.
Est-ce que le thé phénolé est très sombre? C'est-à-dire un rapport avec la couleur qu'on va avoir du thé?
Absolument. Alors, vous me demandiez quels sont les méfaits du thé. Ma phrase a été interrompue par un neurone qui a explosé, comme d'habitude. Donc là, j'en ai à revendre pour 3-4 siècles.
Mais bien sûr.
Donc voilà. Et je dirais simplement,
les très grands
buveurs de thé ont la propension à faire des calculs d'oxalate. Et quand l'oxalate de calcium fait des cailloux, il y a une douleur exquise qui provoque des coliques néphrétiques.
Que vous connaissez bien, visiblement.
Que je connais. Et comme ce sont des petites aiguilles, quand ça passe sur l'urtère, ça vous picote, ça vous fricote, et je peux vous dire que c'est la douleur la plus terrible qu'un humain ou qu'un homme ou une femme peut subir. Donc je dirais que, attention quand même, ce qui veut dire que le paradoxe, c'est quand vous buvez du thé, eh bien, il faut boire de l'eau pour justement laver cette oxalate, ou alors faire beaucoup de sport qui provoque forcément une consommation de boissons d'eau plate, je dirais, relative. Voilà, c'est l'astuce.
On parlait de nos amis japonais qui boivent beaucoup de thé, mais c'est vrai que Geoffroy nous dit, au Maroc aussi, ainsi que dans d'autres pays du Maghreb, on boit beaucoup de thé et ils le lavent aussi beaucoup.
Oui, grand peuple, j'honore ces grands peuples qui savent faire du thé
à la menthe.
Oh là là.
Alors le problème du thé à la menthe, c'est le sucre.
Oui, il y a plus de sucre, c'est comme le cunamane, hein, si vous voulez, il y a plus de beurre que de farine, et là il y a plus de sucre que de thé. Non mais vous savez, je pense à mon ami de La Fontaine qui va souvent au Maroc ou en Tunisie, dans ces pays merveilleux. Et bien concrètement, on a aujourd'hui un de La Fontaine qui fait un thé comme vous le dites, mais il met moins de sucre et c'est très très bien.
Un thé à la menthe, c'est intéressant au niveau nutritionnel.
C'est remarquable, absolument. C'est absolument remarquable.
D'accord. Donc, si j'en consomme trop, je risque d'avoir des petits passages compliqués, hein, lorsque je vais aller me soulager. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, parce que finalement, les calculs, il y a une concrétion d'oxalate, et puis tous les quelques mois, vous allez expulser ce calcul avec des douleurs qu'on appelle des coliques néphrétiques. Ce n'est pas grave.
Combien de tasses de thé faut-il boire?
Voilà. Ça, c'est pas plus. Alors, quand je vois ces dames dans notre antenne, sur notre antenne, quand je vois cette merveilleuse radio, eh bien, avec des collaborateurs remarquables, avec des bouteilles de thé, elles se baladent en plus, vous savez, avec beaucoup de. C'est comme si elles tenaient un parfum, vous voyez. Elles ont le litre de thé avec elles, un litre le matin, un litre le soir. C'est une catastrophe. Il faut quand même se dire une chose, c'est que c'est pas plus de 3/4 de litre de thé par jour, quoi. C'est le thé, c'est pas une alimentation. Je veux dire, c'est une
boisson. On peut pas substituer l'eau au thé.
Non,
on est d'accord.
Surtout pas. D'accord. Il faut un verre d'eau plate par heure, toutes les heures de votre vie, sauf la nuit. Un verre d'eau plate par heure parce que vous expirez de l'eau, vous transpirez, et puis pour vivre, il faut métaboliser de l'eau. Donc il faut, l'humain use un verre d'eau par heure. Donc il faut un verre d'eau par heure. Le thé, pour moi, ça fait partie du repas. Donc, c'est pas plus d'un demi-litre. Et je dis à tous les intellos qui nous entendent ce matin, oui, le thé, très bien, mais c'est pas plus d'un demi-litre.
Catherine qui nous dit, thé pendant le repas, attention au problème d'anémie.
Alors là, c'est autre chose, pas pendant le repas. Le thé tout court au problème d'anémie. Effectivement,
pourquoi ?
Parce qu'il y a la propension pour le thé à laisser... Vous savez, l'intestin, c'est... Une gare, c'est la gare du Nord multipliée par un milliard. Chaque cellule est capable de compter les protéines, les acides gras, les molécules que vous mangez. Et pour le thé, concrètement, il y a un problème, c'est que la molécule de fer, quand elle doit rentrer dans le train intestinal, il y a deux places dans le train intestinal pour le fer, deux. Et quand vous mangez du thé, ces deux places sont prises par les molécules du thé. Et donc le fer ne passe pas dans le train qui doit rentrer dans les cellules pour faire,
je dirais,
pour produire des globules rouges.
Le thé empêche le fer de rentrer dans l'organisme.
Et concrètement, vous n'avez plus de globules rouges, et ben vous avez de l'anémie. Et quand vous avez une anémie, vous avez une souffrance tissulaire, souffrance neurologique.
Il y a beaucoup d'aliments comme le thé, comme ça, qui freinent en fait l'assimilation du fer.
C'est l'excès de plantes. C'est pour ça que quand les véganes commencent à venir au pouvoir, comme ceux qui éliminent les librairies, eh bien, concrètement...
Enfin, je rapport, là,
Si, c'est le même rapport, ce sont les mêmes personnes.
Ah, ça, c'est vous qui le dites.
Eh bien, oui, c'est moi qui le dis, mais je le dis. Eh bien, concrètement, l'idée, c'est quoi ? C'est simplement se préciser que, finalement, l'excès de végétal provoque exactement ce que fait le thé. Ce qui veut dire que quand on vous demande de manger de l'animal et du végétal, et quand je dis tout à fait astucieusement, pour respecter les végétariens, qu'on commence à penser végétal et on finit par un bon steak ou de la volaille ou des œufs ou du poisson, c'est on va pas réinventer la biochimie humaine, quoi. C'est comme ça.
Qu'est-ce qu'on a comme question ? Tiens, on a Thierry qui vous tacle un peu.
Oui, j'aime bien qu'on me tacle.
Il vous dit, entre un thé et un armagnac, en fin de repas, mon choix est fait. Votre nutritionniste est d'une tristesse absolue.
Ah bah attendez, je suis le seul auteur mondial à avoir réalisé sur l'armagnac un travail exceptionnel.
Ah.
Et là, je parle.
Vous allez nous dire maintenant que l'armagnac est bon.
Mais attendez, l'armagnac qui vit contre un fût de chêne pédonculé du Limousin de basse futée, c'est-à-dire un chêne centenaire, un fût neuf. Quand cet armagnac, cette eau de vie sans intérêt, a vécu contre le fût de chêne donne des triterpènes qui sont remarquables pour la fonction intestinale. Publication du 6 décembre 2001, en présence du président de l'Académie de médecine et du professeur Cabrol, je suis l'auteur de cette publication avec Gilles Aramon.
Je vous dis,
une cuillerée à soupe d'armagnac de temps en temps, c'est tout à fait remarquable. Ne m'éteignez pas, j'ai pas fini. Nous passons du thé à l'armagnac dans cette deuxième phase de l'émission.
Donc,
l'armagnac est remarquable.
De temps en temps.
De temps en temps, une cuillerée à soupe d'armagnac. C'est très bien.
Mais tous les combien, une cuillère à soupe d'armagnac.
C'est l'équivalent d'un verre de vin.
Un grand armagnac ne se déguste pas dans une cuillère.
Non, mais c'est pour donner le volume. C'est pour donner le volume. Mais c'est un fond de verre d'armagnac, c'est l'équivalent d'un verre de vin.
On peut en boire tous les jours ?
Un verre de vin par jour, oui.
Un fond de verre d'armagnac.
Oui, tous les jours, sans problème.
À la fin
mais
du repas, plutôt.
Pendant le repas. Donc, voyez, mon ami qui considérait être un ennemi, ça devient un ami. Et je vous remercie, monsieur. Ça m'a permis d'exprimer une des publications que j'avais oubliées et que j'ai réalisées avec Jean-Jacques Lesgourg, Gilles Aramon, le professeur
Christophe
Cabrol,
Lambert, Michael Jackson.
Voilà. Soyons sérieux, François. Non, mais là, je suis blessé dans mon fort intérieur.